Journal des élections, un espace de diffusion d'informations liées au processus électoral en RDC. Agenda électoral, enrôlement des électeurs, rétrospective de la semaine et plus encore. Suivez ce magazine chaque vendredi dès 15h30 à 16h sur Radio Capi.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous parlons aujourd'hui des inondations, comment les prévenir. Vous savez, 44 personnes sont mortes après la pluie qui s'est abattue la nuit de mercredi à jeudi 4 janvier, ici à Kinshasa. Des blessés graves et des dégâts matériels importants ont été aussi enregistrés. Et on peut citer par exemple, il y a eu des ponts affaissés, les routes coupées, les érosions en grande progression. Et d'après nos sources, les constructions anarchiques dans des zones interdites seraient à la base des inondations lors des pluies diluviennes. Alors que faire pour prévenir les inondations? Voilà, il y a eu des inondations à Kinshasa. Nous rappelons également qu'au mois de décembre en 2016, il y a eu également des inondations dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Et il y a eu une cinquantaine des personnes qui avaient péri lors de ces inondations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et déjà, la Metelsat annonce encore d'autres pluies diluviennes qui vont s'abattre dans la ville d'ici à avril. Eh bien, nous aurons des détails tout à l'heure avec notre invité pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir d'autres inondations et pour qu'on ne puisse plus encore déplorer des pertes en vie humaine et des dégâts importants. Alors, vous voulez participer? Vous avez des questions, des préoccupations et des témoignages? N'attendez pas les dernières minutes, le standard est déjà ouvert. Composez les 099-706-63-94. Monsieur Fiston, Ilangui, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, dites-nous, on parle des inondations aujourd'hui. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par inondation?
Voilà, avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu de présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées suite à ces inondations apocalyptiques. Voilà, inondation, ça vient du verbe inonder. Mm-hmm. Et là, c'est par rapport, vous voyez, à une rivière ou bien à la pluie, l'eau de la pluie, bien l'eau des rivières, c'est un peu d'entrer dans les unités bâties, d'engloutir les gens. Voilà, c'est un peu ça. Mm.
Alors, qu'est-ce qui est souvent à la base des inondations?
Non, ben nous sommes dans un environnement urbain, nous sommes dans une ville. Dans une ville, on n'occupe pas n'importe comment, on ne construit pas n'importe comment. Et puis, dans une ville, il y a ce qu'on appelle l'assainissement. Cela doit forcément se faire. Mais lorsque les gens occupent d'une manière anarchique, lorsque les gens n'arrive pas à curer les caniveaux, si ça existe, c'est parce qu'il y a, il faut rappeler que dans les anciennes cités de la ville province de Kinshasa, il y avait des caniveaux qui existent jusqu'à aujourd'hui, mais dans d'autres, il y en a pas. Mais là où les caniveaux existent, il faudrait forcément passer à des curages, ainsi de suite. Ben, il y a aussi un problème au niveau des dimensionnement de ces caniveaux. Là, nous sommes pas là, mais du moins, il faut passer dans les assainissements et ainsi de suite.
Voilà, vous avez dit tout à l'heure que les gens construisent aussi là où il faut pas le faire, mais pourtant la ville, il y a un plan d'urbanisation. Est-ce que pourquoi on ne tient pas compte de ces plans-là?
Voilà, ce qui concerne le plan d'aménagement de la ville province de Kinshasa, la ville, de par sa nature, elle est dynamique. Alors, le plan d'aménagement doit forcément suivre l'évolution de la ville. Ça doit être dynamique également. Alors, vous allez comprendre que le plan d'aménagement que nous avions, ça date de l'époque coloniale. Or, après 15 ans, il faut forcément actualiser le plan d'aménagement. Si vous faites des calculs...
Mais il y a eu sûrement des mises à jour.
Ben non, ben il y a une partie, on parle des sous-sacs, c'est une partie, ça regarde tout simplement la partie ouest de la ville province de Kinshasa, c'est une partie tout simplement, mais jusqu'aujourd'hui, sous-sac n'est pas, on n'arrive pas à, si quelqu'un vient aujourd'hui pour demander l'autorisation des bâtiments, l'instruction de demande d'autorisation des bâtiments ne se fait pas sur base des sous-sacs, vous voyez, son effectivité pose problème jusque-là, c'est parce que sous-sac est concis, tout ça, il y a des recommandations qui sont là, ben ce n'est pas encore appliqué, c'est une actualisation partielle, c'est une partie tout simplement, mais les autres côtés, il y a pas un plan d'aménagement qui est
donc
juste
les constructions en Afrique, c'est la conséquence de l'absence d'un plan d'aménagement, si on peut le dire ainsi.
Pas du tout. Les constructions, pourquoi il y a construction anarchique? Normalement, on ne devait pas parler de construction anarchique dans la vie province de Kinshasa. C'est parce que on a une administration et on a les règles en matière d'urbanisme. Les agents des services d'urbanisme et habitat devraient tout faire pour faire respecter ces prescriptions urbanistiques à la population. Alors lorsqu'il y a constriction en Arche, parce que dans une ville, le principe est simple, le principe fondamental est que dans une ville, on ne peut pas construire n'importe où, n'importe comment, sans préalablement solliciter une autorisation des bâtiments. Alors l'administration devrait être sur le terrain pour contrôler les gens qui sont en train de construire. Moi, je trouve anormal que quelqu'un qui commence à construire, quelqu'un qui est en train de violer la servitude, il est en train de construire sur les lignes majeures de la rivière, il a commencé à faire la fondation et il a fini, et aucun agent de service d'urbanisme puisse venir pour lui inquiéter. Voyez. Donc, les gens construisent, or, l'administration devrait être forte sur le terrain pour contrôler et sanctionner. Parce que personne ne peut construire dans un environnement urbain sans préalablement solliciter l'autorisation des bâtiments. On parle aujourd'hui des inondations, c'est parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais en réalité, les servitudes d'utilité publique sont violées dans la ville-province de Kinshasa.
Qu'est-ce que vous appelez servitude?
Alors, il y a ce que nous on appelle le servitude, qui, je dois faire une différence, il y a ce qu'on appelle les servitudes foncières, qui est une charge imposée sur un sol, une parcelle par exemple, pour l'intérêt d'une autre parcelle. Voilà, une parcelle qui est enclavée, on doit forcément faire passer une servitude de passage pour que la personne qui est enclavée puisse trouver un endroit pour passer.
Une voie de sortie.
Une voie de sortie, voilà. Mais il y a ce que nous on appelle le servitudes administratives ou les servitudes d'utilité publique. Ça, il n'y a pas question de fonds servant ou bien pour l'intérêt d'une parcelle ou bien d'un fonds, c'est pour l'intérêt général. Je fais appel à l'arrêté interministériel numéro 0021 du 23 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes d'utilité publique. Lorsqu'on parle d'une servitude en matière d'urbanisme, il s'agit d'une interdiction formelle. Ça fait partie d'une règle.
Donc c'est un espace où on ne doit pas construire.
On ne doit pas construire. Même lorsqu'on fait les zoning, lorsqu'on zonifie le plan d'aménagement, il y a toujours des zones, on fait des affectations. Tel endroit serait réservé à tel équipement. Il ne faut pas changer la destination. Si l'urbaniste dit que non, il faut construire ici des maisons à rez-de-chaussée. Ne venez pas pour construire une maison à R plus 1. Là, vous violez également la loi. Alors, à ce qui concerne les servitudes, on s'est dit par exemple, j'avais fait appel à cet arrêté interministériel, on a essayé de faire une nomenclature de servitudes d'utilité publique. Entre autres, on a parlé des emprises des chemins de fer, on a parlé les emprises de lignes de câbles de haute tension, on a parlé les rives de rivières allant jusqu'au moins 10 mètres à partir des niveaux le plus élevé lorsque l'eau entaille pendant la crue. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il pleut pendant la crue normale, vous allez constater qu'il y aura inondation. Alors, il faut vérifier là où l'eau va s'arrêter et vous comptez au moins 10 mètres. Il y a une servitude non édificante, on ne peut pas construire.
Mais quand vous passez tout le long de nos rivières ici, mais les gens ont des maisons juste à côté des rivières.
Ben c'est ça, c'est pour dire qu'il y a un problème. Il y a un problème et je fais appel à l'article 2 par exemple de cet arrêté interministériel. On dit tout lotissement, toute construction, toute occupation sont interdits. C'est interdit par la loi. Mais depuis longtemps, lorsque ces gens-là occupaient ces endroits dangereux, l'État était où? Les services d'administration, les services d'urbanisme étaient où? Or, il devrait être sur le terrain depuis longtemps pour vérifier, pour contrôler et sanctionner. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à construire là-bas. Il y a des gens qui sont là. Il y a le perte à vie humaine. On est en train de parler de ça. Mais dans la ville province de Kinshasa, il y a des gens qui ont construit au-dessous des câbles de haute tension. Mais ça, c'est un problème, c'est grave.
Même certains ont construit même sur des collecteurs.
Voilà, ça c'est grave. Ça c'est grave. Mais on devrait forcément, le ministère de l'urbanisme, les agents qui sont là, peut-être ils ne savent pas constater les infractions sur le terrain. Parce que pour arriver à constater une infraction en matière d'urbanisme, il faut être expert à la matière. Il faut connaître également cette règle. Si vous ne connaissez pas les différentes prescriptions urbanistiques, ça sera un peu compliqué. Parce que vous pouvez venir devant quelqu'un pour dire, non, ben écoutez, vous avez violé la loi, vous faites une construction anarchique. Je vais vous poser la question en guise de quoi? Il faut être fort, il faut prouver, il faut faire appel à des arrêtés, il faut faire appel à des articles, il faut maîtriser l'urbanisme.
Mais quand on parle des zones non édificantes, qu'est-ce que cela veut dire? Donc ce sont des endroits où il ne faut jamais construire.
Il ne faut jamais construire. Une interdiction formelle. On ne peut pas construire, c'est ça. Une servitude non édificante. Quand je parlais de la que non, lorsqu'on fait une zonification, on peut des fois interdire des gens de monter en hauteur. Mmh. Par exemple, à côté de l'aéroport, tout ça, ainsi de suite. Là, il y a une servitude altiustolente. Vous ne pouvez pas monter en hauteur. C'est une interdiction formelle.
Alors, quand on ne respecte plus, on ne respecte rien, voilà là, les conséquences, ce sont les inondations.
Ben oui, mais j'avais dit autrefois ici que l'urbanisme vise un développement harmonieux, un développement rationnel. Mmh. Pour atteindre ce développement rationnel, on met à côté les règles en matière d'urbanisme. Il faut respecter les règles. Si vous respectez les règles en matière d'urbanisme, eh ben, on va atteindre ce développement harmonieux. Mais lorsque vous ne respectez pas ces règles, vous allez tout droit vers l'anarchie. Vous allez tout droit vers une bidonvilisation. Ben, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Il y a une inondation, c'est ça qui a des conséquences.
Des conséquences, voilà. Oui. Comment prévenir les inondations? Fiston Ilangi, urbaniste, et l'invité d'Okapi Service. Nous avons trois auditeurs en ligne. Séraphin de Lubumbashi, Crispin Goy de Lubumbashi, et il est également de Lubumbashi, et Maître Gasson de Kinshasa. Séraphin, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur les inondations?
Mais les inondations, c'est ce que nous regrettons, parce que, en principe, je suis ingénieur géomètre topographe, et je regrette que ce que nous apprenons à l'école, les projets que les étudiants écrivent à la section géomètre topographe par rapport à l'assainissement, ces projets sont classés dans les tiroirs et ne servent pas au gouvernement comme modèle, comme déjà études, pré-études qui pouvaient être mises en application.
À Lubumbashi, aussi, il y a des cas des inondations.
Mais il faut passer après les pluies. Lubumbashi, c'est une ville où il pleut abondamment. Et quand vous passez même sur les boulevards, les grands boulevards, c'est plein d'eau, c'est toute une rivière pendant les pluies qu'une route. Donc, nous pouvons dire qu'il y a un problème d'aménagement tel que les gens occupent les espaces non constructibles. Nous avons eu des inondations de la rivière Makelele il y a, je pense, 20 ans. Mmh. Et tout ça doit être suivi par les services de l'urbanisme. L'eau s'arrête, il y a des pluies qui viennent après 10 ans, après 20 ans, et après 50 ans, il y a des pluies qui arrivent. Est-ce qu'il y a un service qui suit et qui peut nous rassurer qu'à 50 ans, on a eu des pluies qui se sont arrêtées à tel niveau? Et ces zones-là devaient être bien protégées comme des zones inconstructibles, non édificantes, comme les confrères venaient de le dire. Mmh. Il y a le morcellement, monsieur le journaliste. On est en train de se complaire des morcellements qui se font, des maisons qui poussent comme des champignons. Mais je vous dis que les réseaux d'assainissement, tel qu'il a été dimensionné par les colonialistes belges, cela devait recevoir un débit d'eau. Et quand vous augmentez des maisons, vous augmentez les débits d'eau à drainer. Mmh. Et d'autre part, les réseaux n'est pas redimensionné. Et là, ça pose un grand problème pour le fonctionnement de la ville, parce que vous avez modifié la configuration, vous avez modifié les débits d'eau à drainer, mais les réseaux n'ont pas été modifiés. C'est pourquoi, pour modifier, il faut faire des études au préalable pour dire qu'est-ce que nous devons faire. Et il y a les parcelles qu'on est en train de distribuer par-ci, par-là, et là, ces parcelles-là, il faut la voirie qui devait précéder la Kinshasa. C'est une zone qui est sablonneuse. Il faut bien canaliser les eaux avant de construire les maisons. Mais la voirie n'existe pas. Nous voyons l'administration qui est en train de donner les maisons sans la voirie, sans les réseaux d'assainissement. Et là, c'est un problème.
D'accord.
Et le grand problème pour moi, c'est les capacités pour les administratifs, donc les services qui sont désignés pour distribuer les terrains, lotir les terrains et gérer les terrains.
D'ailleurs, ici à Kinshasa, il y a un moratoire qui interdit tout lotissement jusqu'à nouvel ordre. Merci Séraphin pour cette contribution. Crispin Goy, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour. Bonjour Crispin Goy. Il n'est plus en ligne. Maître Gaston de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prévention des inondations?
J'avais trois solutions. Trois solutions à proposer. Et puis, je pense que nous devons aussi faire un effort de ne plus nous accuser mutuellement, dans les uns aux autres, les autres. Mais il faut plutôt proposer des solutions s'il y a un problème qui arrive.
Quelles sont les solutions que vous proposez pour prévenir d'autres inondations?
Premièrement, j'allais dire que nous devons agir si possible, avant que le pire arrive. Avant que le pire arrive. Parce que des fois, nous voyons qu'il y a un danger qui guette, mais tout le monde ne fait rien. Et lorsque le pire arrive, on n'a même pas la mémoire de nos morts. Je vais vous donner un petit exemple à Zigida, là-bas, ce qui s'est passé à Zigida. C'était le 8 janvier normalement, c'était passé comme ça, mais normalement, les gens, tout le monde savait. Vous voyez même, prétendait dire qu'il y a. Il y avait quelque chose qui devait arriver. Et c'est arrivé, on a vu des morts, et les gens meurent comme ça. On n'a même pas la mémoire de penser à ces gens. Il faut d'abord cultiver cette habitude d'avoir la mémoire, à mon avis, la mémoire de nos morts. Mais aussi, je voulais aussi dire, dans le sens de faciliter l'obtention des terrains. Vous savez, avoir un terrain, ça ne devrait pas être un luxe, à mon avis. La procédure est là. Vous savez que la procédure est là, mais cette procédure n'est pas connue.
Alors, d'après vous, Maître Gaston, d'après vous, pour prévenir d'autres inondations, il faut distribuer facilement les terrains à tout le monde.
Voilà, et je demande même au chef de l'État de choisir des endroits où on peut lotir et octroyer gratuitement les terrains aux pauvres citoyens congolais qui ont des difficultés d'avoir les terrains. Mais c'est pas seulement faciliter l'octroi des terrains, à mon avis, il faut aussi créer les conditions de vie favorables. Par exemple, les gens qui savent qu'ils vont vivre dans des endroits ou des espaces où on ne voit pas encore les gens là-bas, mais ce sont des espaces normalement qu'on devrait faire habiter les gens. Il faut qu'on mette toutes les règles de l'urbanisme. Mais moi, je pense aussi qu'il faut changer l'administration, parce que nous, si nous voulons entrer là-bas, peut-être c'est pour apporter quelque chose. Ce sont les administratifs aussi qui posent problème. Ces gens-là ne sont pas professionnels, à mon avis. Ils ne sont pas professionnels et ils ne font rien en réalité. Parce que tout ce cri-là, c'est aussi leur faute. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire des choses comme ça. Mais comme il y a des projets en cours, venons voir.
D'accord. Merci, Maître Gaston de Kinshasa. Michel Ouyumbu nous dit ceci. La prévention des inondations passe par la connaissance des aléas et des risques d'inondation, qui est un préalable fondamental, la disposition des informations préventives et la sensibilisation des risques, la surveillance, l'alerte et la gestion des crises. Et ensuite, il dit la prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire. Michel Ouyumbu et Takinchos, Fiston Ilangi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces réactions?
J'ai suivi Maître Monsieur Séraphin à partir de Lubumbashi. Il a parlé, il y a aussi Maître Gaston, ben c'est une très bonne chose. Ce que nous venons de le dire, Maître Gaston a parlé de il faut agir avant que le pire arrive, et c'est ce que je venais aussi de dire à ce qui concerne même les gens qui ont construit au-dessus des câbles de haute tension. Il faut vraiment agir, c'est le moment. On ne doit pas attendre que les gens puissent mourir et afin d'élever une option, c'est le moment de le faire. Optation des terrains, ben écoutez, les gens confondent des fois. Le lotissement n'est rien d'autre qu'une opération d'urbanisme. Voilà. C'est ça, c'est une opération d'urbanisme. Alors, si on veut lotir, il y a quand même des préalables. Il y a des préalables. Il y a ce que nous, on appelle l'opération de trams assainies. C'est-à-dire que dans un environnement urbain, si on veut lotir, on doit d'abord assainir la trame. Quand on parle de l'assainissement de la trame, cela veut dire qu'on doit mettre sur pied, on doit viabiliser le site. Voilà, à d'autres termes. On doit viabiliser le site avant que les gens puissent construire. Ça veut dire lorsqu'on fait déjà le plan de lotissement, on viabilise les sites, on assainit les sites. Ça veut dire qu'on va placer les caniveaux, on va placer la voirie, les équipements, ainsi de suite. Et les gens viendront pour construire. Ou bien on peut passer à l'autoconstruction, ou bien on produit des habitats administrés. Ça veut dire que sous les contrôles de l'administration, avec ce qu'on appelle l'autorisation des bâtures, ou bien l'État pouvait construire des logements pour la population. Et la population viendra tout simplement pour prendre la clé et entrer dans les logements. Ben c'est ça, ce sont les
logements sociaux.
Les logements sociaux, mais c'est qui? Parce que lorsque les gens construisent le long des rivières, c'est pour dire qu'il y a un problème. L'État devrait prendre cela dans un aspect, dans un point positif, pour dire que non, ben ça c'est un signal fort. C'est pour dire que non, il y a un besoin. Vous trouvez normal que quelqu'un peut accepter de rester dans un endroit dangereux pendant beaucoup de temps? C'est anormal. Les gens acceptent.
Bon, c'est peut-être, il y a certaines personnes qui n'ont pas l'information sur les risques ou les dangers qu'ils courent en allant acheter à côté d'une rivière.
Ben, écoute, nous, les urbanistes sont formés au pays. Il y a des techniciens qui sont là. C'est parce que, à ce qui concerne la ville, à ce qui concerne la gestion de la ville, il n'y a pas seulement l'urbaniste. L'urbaniste est là comme un chef d'orchestre, mais il y a beaucoup d'intervenants. Mais il y a beaucoup d'experts ici à la cité. Il faut leur poser la question. Si vous voulez construire, si vous voulez acheter un endroit, cherchez un urbaniste pour vous assister. C'est très important. Les urbanistes sont formés, ce sont des conseillers pour la population. Les urbanistes sont des conseillers pour les autorités. Les urbanistes ne sont pas des décideurs. Mais si une personne veut acheter, si une personne veut construire, il n'a qu'à demander un expert pour lui assister, pour avoir des informations. Mais si les gens construisent n'importe comment, n'importe où, ils construisent comme ils veulent, ben écoutez, ils sont en train de perdre leur argent pour rien. C'est parce que l'administration, dans l'administration, il y a quelqu'un qui a parlé pour dire que non, il n'y a pas assez de professionnels. C'est juste, j'avais dit ça autrefois qu'au ministère de l'urbanisme, il n'y a pas plus de 30 urbanistes, des licenciés en urbanisme.
Et alors, qui sont là alors?
Et les urbanistes sont là au pays. Et j'avais dit que pour gérer cette ville de Kinshasa, vu sa taille, avec l'hypothèse de 10 millions d'habitants, il faut avoir au moins 500 urbanistes. Mais le pays n'a pas plus de 150 urbanistes. Mais les 150 urbanistes qui existent, il y a seulement 30 personnes qui sont au ministère. Mais les autres là sont là dans des cabines, ne font absolument rien. L'État ne les considère pas. Mais oh, le ministère de l'urbanisme, c'est un ministère technique. C'est un ministère technique. Même si le ministre, il n'est pas urbaniste, il devait être entouré par les urbanistes. Dans les cabinets du ministre, il n'y a aucun urbaniste comme conseiller. Le bourgmestre de la ville première de Kinshasa, personne n'a un conseiller urbaniste à côté de lui. Le gouverneur de la ville première de Kinshasa, dans son cabinet, aucun urbaniste. Mais ça pose problème parce que ce sont les autorités, ce sont les acteurs décisionnels en matière d'urbanisme. Comment est-ce qu'ils prennent des décisions en matière d'urbanisme? Ils devraient avoir quelqu'un pour lui donner de l'information. C'est parce que les urbanistes sont formés au pays. Aujourd'hui, on parle de la décentralisation, de démembrement. Il y a eu création des villes qui n'ont pas de plan d'aménagement, des villes qui n'ont pas d'urbanistes. Si la ville de Kinshasa nous demande 500, mais le Congo a 150.
Donc vous voulez dire que pour prévenir d'autres inondations, il faudrait recourir aux urbanistes pour réfléchir sur ce qu'il faut faire pour éviter des catastrophes.
Ben oui, pour prévenir cela, d'abord, tout doit commencer par au niveau d'une volonté politique. L'urbanisme, au-delà de la dimension technique, il y a aussi une dimension politique. C'est la dimension politique qui prime sur l'urbanisme, sur la dimension technique. S'il n'y a pas une vision politique, s'il n'y a pas une politique rationnelle en matière d'urbanisme, en matière de logement, eh bien les techniciens vont rien faire. Il faut associer les dés. C'est un système, ça doit aller sous une forme, sous une approche systémique.
Est-ce qu'aujourd'hui, et bon, je reviens à vous, le temps d'accueillir trois auditeurs, Malonga Nebano de Ville, Jeff de Kananga et Jules Kazadi de Lubumbashi, nous parlons de la prévention des inondations. Malonga, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour notre invité.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je vais dire ceci. Je présente d'abord mes condoléances à toutes les familles éprouvées là. Mais selon notre thématique aujourd'hui, en tout cas, c'est un problème de la volonté politique et d'abord des gouvernants. Puisque aujourd'hui, il faut savoir d'abord éclaircir l'inondation. Il y a inondation si l'eau de la rivière dépasse son lit normal. C'est l'inondation. Mais ceux qui font souffrir nos compatriotes là qui chassent aussi ici même à Bandundu, je peux vous dire, nous avons notre avenue ici de Wamba qui a une grande dénivellation. De Kwilu à Wamba, en tout cas, il peut y avoir même des 500 mètres. Mais s'il y a une forte pluie aujourd'hui, je vous dis qu'il y a de l'eau qui manque le cheminement. Ça resserre vraiment difficilement. Ce qui pouvait être fait là-bas pour épargner ce manque de ruissellement vraiment librement. Il faut opérer des caniveaux, des terrasses, des canaux qui sont vraiment qui amènent de l'eau librement lorsqu'il y a la pluie. Félicitations d'abord à notre excellence ici, lorsqu'il était là, Balabal, son pouvoir seulement, on a commencé à déboucher tous les canons. C'est ce qu'il faut faire. Là, à Kinshasa, il n'y a pas de canons. Hein? Il y avait, mais sans boucher. raison pour laquelle s'il y a de la pluie, en tout cas les eaux de la pluie doivent provoquer des incendies comme ça. Alors,
les inondations.
Les agents d'assainissement, les JASA de l'hygiène et les JASA de en synergie doivent se mettre ensemble pour mettre ces enjeux en opération pour épargner la population à ces dégâts-là.
D'accord.
Donc, chaque fois, moi, je dis ici, dans notre radio de la paix, qu'il faut, il faut comprendre que la population est considérée comme des enfants de la famille. Si les parents ne veillent pas à la surveillance de leurs enfants, les enfants seront victimes de tout mal qui sera dans cette famille. C'est ça le gouvernement. Pourquoi le gouvernement va laisser la population se construire en pêle-mêle, en divagation, et aux yeux de tous ceux qui dirigent le pays? La faute vraiment est au gouvernement. Il faut que même la population s'impose que non, nous serons toujours ici, nous serons ici. Mais c'est vous, dirigeants, qui savez que non, si la population
merci,
est
Malonga,
là,
oui.
Un peu plus loin, elle aura toujours la difficulté.
Merci Malonga. Jeff, vous êtes à Kananga, soyez un peu beaucoup plus bref. Bonjour, quelle est votre préoccupation, Jeff? Jeff, vous êtes en ligne depuis Kananga? Bon, il n'est plus là. Jules Kazadi Alboumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody Kratiama et à notre invité.
On vous écoute, Jules.
Le sujet est très important, monsieur Jody. Donc, le problème, c'est nous sommes en train de... Bon, on se demande... Parfois, ici à Alboumbashi, il n'y a pas beaucoup de montagnes, comme à Kalemi, parce que j'ai vécu aussi à Kalemi. À Kalemi, les gens construisent sur les montagnes, alors c'est la terre qui se verse juste dans des caniveaux. S'il y a la pluie, c'est l'inondation. Donc, je ne sais pas comment nous n'avons pas un service habilité pour commencer à interdire au cas de construire en désordre. Je ne sais pas. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi, quelqu'un peut se réveiller un petit matin, il construit devant... Il ferme la barre, l'avenue. Donc, il construit sur l'avenue. Donc, il barre la route. Et il commence par la fondation jusqu'au niveau de tôle. C'est tout le monde qui passe là-bas. Alors, moi, je me pose la question, monsieur Jody. Pourquoi ce service-là d'urbanisme et environnement, où ils sont? Peut-être ils ne sont pas mobiles, peut-être parce qu'ils n'ont pas de matériel, des équipements de déplacement, par exemple des véhicules et tout, des appareils, pour qu'ils puissent commencer à contrôler un peu partout, qu'ils soient présents dans toute l'étendue de la RDC. Donc ça, ce problème ici, des différentes catastrophes qui se passent chez nous, sans solution. Donc il faut que nos dirigeants quand même... Pour diriger un pays comme le nôtre, la RDC, il faut prévoir.
D'accord, merci.
Il y a beaucoup de problèmes.
Il y a beaucoup de problèmes.
Oui, monsieur Jody.
Merci, Jules.
C'est pitoyable quand même.
Merci, Jules. Alors, monsieur Fiston Ilangui, je disais tout à l'heure que la Metelsat a annoncé d'autres pluies sur la ville de Kinshasa jusqu'au mois d'avril. Alors, comme on annonce déjà qu'il y aura encore d'autres pluies qui peuvent causer aussi des inondations, alors c'est maintenant qu'il faut prévenir. Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Vous avez dit qu'il faut qu'on définisse une vision, une politique et qu'on associe les urbanistes.
Voilà, il y a aussi ça. Mais au-delà de ça, il y a un intervenant qui a parlé de problème de dimensionnement des caniveaux. Voilà, lorsqu'on construit un caniveau, le dimensionnement des caniveaux se fait en fonction des débits de l'eau qu'il faut forcément évacuer. Et c'est pas pour rien qu'on parle des coefficients d'occupation du sol. Auparavant, c'était des 40%. On demandait à ce que les gens ne puissent pas construire plus de 40% de leur parcelle par les unités bâties. De telle façon que non, une quantité d'eau devrait s'infiltrer sur place dans la parcelle et une petite quantité qui devrait être déversée dans les caniveaux. Mais aujourd'hui, avec le morcellement, aujourd'hui tout ça, on construit...
Plus il y a des maisons, plus les débits d'eau à drainer augmentent, comme l'a dit le topographe.
Voilà, mais le dimensionnement des caniveaux ne suit pas cela. Les dimensionnements des caniveaux, les caniveaux sont restés les mêmes, mais entre-temps, le débit a augmenté. D'où il y a quoi? Il y a débordement. Mais là où même les caniveaux existent, enlevons cette histoire de dimensionnement des caniveaux. Il y a d'autres endroits où les caniveaux existent réellement. Mais il faut curer les caniveaux. Les Quinois demandent au caniveau de s'autocurer. Les caniveaux ne peuvent pas s'autocurer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour curer cela.
On a suivi les images, c'est rempli de bouteilles en plastique et plein de saleté.
C'est le comportement des Quinois, quelque part aussi. Il faut qu'on se le dise. C'est le comportement des Quinois. On ne peut pas se comporter n'importe comment dans un environnement. Il faut quand même quitter ce stade de co-naïveté. Ça ne sert à rien. Pour être en ville, il y a des gestes, il y a des façons de faire des choses d'une manière simple. On ne peut pas jeter, déverser les déchets dans un caniveau. Non, ça ne se fait pas. C'est ça le vrai problème. Même nos rivières ne sont pas curées. Nos rivières ne sont pas curées. Aujourd'hui, lorsque les gens construisent sur le lit majeur, parce que la rivière a toujours des lits, les lits mineurs et les lits majeurs. Les gens construisent sur les lits majeurs de la rivière, mais ça pose problème. Ça pose problème. Or, il y a une interdiction formelle. Et la règle en matière d'urbanisme, il s'agit d'une règle impérative. Tout le monde devrait respecter cela. Ce n'est pas aussi pour la première fois. Je sais que dans tout ça, on finira par démolir. On va dire non, il faut démolir, il faut casser tout ça. On avait fait ça autrefois. Mais la même population était revenue encore.
Revenue au même endroit.
Est-ce que le gouvernement s'est posé la question pourquoi ces retours-là, pourquoi ces gens-là ont toujours tendance à rester? Je me rappelle encore avec ce qui s'était passé dans des cités Pakadzouma en 2008, si j'ai une bonne mémoire, en 2008, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa avait levé une décision pour dire que non, on devait ramener tout ce monde-là vers Passa, à une cité qu'il appelait cité de l'espoir.
Tous ces gens qui habitaient le long des rivières.
Oui, même dans les Pakadzouma, tout ce monde-là, les sinistrés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après quelques temps? Tout ce monde-là sont regagnés. Mais cela devrait interpeller aussi les autorités. Comment voulez-vous amener des gens? Vous constatez que non, ici, au centre-ville, ils sont en train de souffrir. Vous les amenez en passe.
Dans un autre site.
Un site qui n'est pas assaini, un site qui n'est pas viabilisé. Pas d'équipement, pas d'école.
Pas d'eau, pas de marché, rien du tout, pas de route.
Et surtout, ces gens-là ont l'habitude de travailler ici, au centre-ville. Par exemple, ceux qui sont aux environs de rivières, ils sont là en train de faire surtout les sables. Ils restent là-bas. Ça veut dire que non, ils n'ont pas le temps de payer les transports pour aller au boulot.
Et finalement, ils vont retourner là-bas.
C'est parce que s'il est en passe, eh ben, il ne sera pas venu travailler de l'autre côté. Voilà pourquoi, avant de prendre une décision comme ça en matière d'urbanisme, on parle de l'urbanisme participatif, il faut aussi chercher à voir le point de vue de la population. Leur poser la question, juste qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez rester ici? Ils vont vous dire peut-être, non, il y a un problème de logement, bien sûr. Là, on va préparer une trame d'accueil et assaini. Je dis bien la trame d'accueil est assainie, c'est-à-dire qu'une trame d'accueil pour accueillir tout ce monde-là, mais on doit viabiliser ces sites en amont. Et puis construire des logements sociaux pour cette population et leur donner de l'emploi décent. Voilà.
Mais vous savez qu'il y a des quartiers qui se développent à Kinshasa aujourd'hui et il n'y a pas de caniveau. Vous prenez un Passa, un Mboudi et ailleurs, les gens construisent des belles maisons, mais il n'y a pas de caniveau. Et quand il pleut, mais les routes sont, c'est difficile de passer par là.
On parle des quartiers spontanés, c'est ça les quartiers spontanés.
Les quartiers spontanés, c'est ça.
Mais vous savez, le domaine foncier, le patrimoine foncier de l'État, il y a ce qu'on appelle le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Les domaines publics de l'État sont, les terres de domaine public de l'État sont inconcessibles. On ne peut pas faire un contrat de concession dans un domaine public de l'État. C'est inaliénable. Mais il y a ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. C'est de là qu'il faut forcément signer un contrat avec l'État, contrat de concession, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les gens occupent le domaine public de l'État. Quand on a parlé de servitude, les servitudes d'utilité publique, ça fait partie des domaines publics de l'État. Et les terres de domaine public de l'État sont inconcessibles, sont inaliénables. On ne peut pas aliéner.
On ne peut pas occuper ces zones-là. Il y a Fizère, Emmanuel, voilà, Mabouak en coucou, nous dit ceci, ces parcelles ont des titres fonciers légaux attribués par les conservateurs des titres immobiliers. Et ces gens ne sont pas sanctionnés. Voilà. On dit que ces gens construisent sur des zones qu'il fallait pas, mais certains ont des documents, qu'ils ont obtenus auprès des services de l'État. On va accueillir Jirès et Maka de Bandounouville et Crispin de Lubumbashi. Comment prévenir les inondations? Nous en parlons aujourd'hui avec Liston Ilangi, urbaniste dans ce magazine Okapi Service. Jirès et Maka, bonjour.
Bonjour Jody, merci de m'avoir accordé la parole. Je félicite beaucoup l'invité.
Merci.
Nous sentons que c'est vraiment enchevronné à la matière. Bon, c'est ce que j'allais dire, c'est presque ce que le prédécesseur ainsi que l'invité ont dit. Mais toutefois, si d'un côté, l'État doit remettre de l'ordre dans ce secteur, De notre côté, la population aussi doit se renseigner avant de pouvoir procéder à une construction parce qu'il y a trop de désordres dans ce secteur. Je vous remercie.
Merci, Jurès. Crispin de Lumbashi, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Nous savons tous, il y a un principe ou un adage, après la pluie vient le beau temps. Mais c'est le contraire ici, dans notre province. Mm-hmm. Pourquoi cela? Parce que, et d'ailleurs, je vous remercie pour le sujet d'aujourd'hui. Cette étape ici, où cette submersion ponctuelle d'une zone habituelle sèche par des eaux douces ou salées, bat record dans notre province. Parce que la question est de la manière suivante, comment prévenir à cela? Alors, pour pouvoir lutter contre tous ces dégâts, il est nécessaire, n'est-ce pas, de bien connaître les phénomènes, mais aussi d'intervenir sur tous les leviers par une approche globale. Ce que moi j'appelle un mot d'ordre, ou 3P, donc la prévention, prévision, mais aussi la protection. Donc, j'ai essayé un peu de raisonner trois pistes de solutions. La première piste, d'abord, il faut d'abord ralentir les écoulements pour éviter les inondations très importantes. Deuxièmement, il faut aussi lancer l'alerte. Pourquoi cela? Parce que nous avons tous que les risques zéro n'existent pas quand il y a des inondations. Donc il est indispensable de gérer les risques des inondations existants et aussi d'informer les personnes pour avertir la population d'un événement significatif, mais aussi de mettre en œuvre des mesures de sauvegarder ou des syndicats mixtes pour l'aménagement du bassin versant. Mais aussi, on doit gérer la crise des bâtiments et aussi des activités ayant été implantées en zone inondable. Donc, ils pourront être exposés à des crues ou pouvoir, ou en public, notre étape plutôt doit s'organiser pour mettre en œuvre les moyens permettant de porter assistance aux personnes touchées. C'est ça ce que je voulais un peu ajouter aux mes co-débatteurs.
Merci Crispin de Lubumbashi. Il nous dit qu'il faut ralentir le ruissellement des eaux des pluies. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour ralentir ces ruissellements et puis avertir la population? D'ailleurs, l'Agence nationale des météorologies par satellite, Metelsat, recommande au gouvernement congolais de lui fournir un radar précipitation pour prévenir la population contre les cyclones et précipitations qui pourront arriver. Ça demande des équipements. Et puis Crispin nous dit qu'il faut gérer la crise, hein. Ces bâtiments qu'on appelle communément les constructions anarchiques. Monsieur Fiston Ilangi.
Voilà, je vais commencer par un auditeur qui avait parlé qu'il y a des gens qui détiennent des titres dans des endroits que les autorités appellent constructions anarchiques, occupations anarchiques. Mmh. Ben, écoutez.
Mais ils ont des titres délivrés par les services.
Oui. Là aussi, il y a un problème. Compétent. Voilà pourquoi on est en train de déplorer l'incompétence des fois aussi des agents de l'administration en matière d'urbanisme, en matière des affaires foncières. Comment voulez-vous signer un contrat? Il y a quelqu'un, un individu qui vient solliciter une parcelle ou bien il veut signer un contrat avec l'État, mais vous constatez que là où la personne est en train de demander, ça fait partie des domaines publics de l'État. Comme conservateur, vous le savez que non, ben ici, on ne peut pas céder cela, on ne peut pas signer un contrat de concession dans des terres pareilles. Mais le conservateur est là, il signe au nom de l'État. Mais or, si vous regardez dans la loi foncière, il y a quand même une procédure, comment faire? Il y a des interdictions qui sont faites. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'article 207 de la loi foncière, il y a ce qu'on appelle, quand est-ce qu'on peut frapper un contrat de concession de nullité? Mais lorsque vous signez un contrat qui énerve la loi foncière par rapport à tout ce qui est prévu dans la loi foncière, ce contrat-là va tomber, sera frappé d'une nullité. Mmh. Mais lorsque vous signez un contrat et ce contrat-là énerve les exigences impératives d'ordre urbanistique, ce contrat sera frappé de nullité. Je donne un exemple. Vous avez signé un contrat avec l'État. Vous avez acheté une parcelle qui est au-dessus des câbles de haute tension, ou bien une parcelle qui est sur les limagères de la rivière. Mais en amont, il faut se le dire que non, ça fait partie des servitudes. Une servitude, c'est une interdiction. Mmh. Si la population est informée des différentes prescriptions, des différentes interdictions en matière d'urbanisme, je pense que cette population n'allait pas se laisser comme ça.
Mmh. Il y a un déficit de communication.
Déficit communicationnel. Mmh. Ça, on doit forcément reconnaître cela. Le ministère de l'urbanisme, au-delà de tout, il va faire quand même des programmes, travailler à l'unisson avec des chaînes de télévision, des radios, pour sensibiliser la population. C'est parce qu'une règle qui n'est pas connue, ça, en tout cas, c'est vraiment difficile pour que cette règle puisse être respectée par la population. Mmh. On devait sensibiliser la population, entre autres. Alors, il y a des problèmes comme ça. Il y a des problèmes comme ça. Mais
alors, Crispin nous dit, pour prévenir d'autres inondations, il faut chercher, trouver des mécanismes pour ralentir le ruissellement sauvage des eaux des pluies.
Le ralentissement de l'ruissellement, tout ça, ça va passer tout simplement par l'assainissement de la ville. Lorsqu'on assainit la ville, eh ben, toutes ces histoires, on ne va pas assister à cela.
Et il y a aussi, vous avez parlé du dimensionnement des caniveaux.
Le dimensionnement des caniveaux. Non. Donc, Kinshasa, sur tous les plans, on doit forcément revoir un peu sa trame vieille. On doit arriver à assainir cette trame vieille une fois de plus. C'est parce qu'il y a d'autres cités ou d'autres communes où il y a des caniveaux. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Là où il y en a pas, il faut forcément chercher à assainir ces milliers. Là où il y en a, il faut chercher maintenant à redimensionner et à faire de curage, c'est ça le problème, à faire des curages. Normalement, si vous aviez une parcelle, vous ne pouvez pas morceler n'importe comment. Avant de morceler, il faut avoir un avis urbanistique. Il faut avoir un avis urbanistique. C'est pas pour rien qu'on parle d'écorce, de coefficients d'occupation du sol. Il faut avoir un avis urbanistique. Mais aujourd'hui, les gens morcellent comme ils veulent. Tout ça, c'est quoi ? Nzala, la pauvreté.
Quel mécanisme mettre en place pour avertir les gens quand il y a un danger, par exemple, une pluie diluvienne qui peut s'abattre et qui peut causer des inondations? Comment avertir la population?
Non, mais la population doit savoir qu'il y a des endroits où on ne peut pas occuper, où on ne peut pas construire.
Maintenant, ceux qui occupent déjà ces endroits-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les déplacer de là.
Mais il faut les déplacer. Je pense que la loi est claire. L'article 3 de cet arrêté interministériel de numéro 0021 est clair là-dessus. On ne peut pas occuper, il faut démolir tout cela. Mais comme ce sont des gens qui sont déjà là, la population, l'État doit prendre en charge tout ce monde-là.
Il faut les construire. Les longs des rivières, par exemple.
Oui. Il faut les reconstruire. Il faut préparer une trame d'accueil et assainir. Pas quelque chose de cité de l'espoir que moi j'estime une cité des espoirs. Préparer une trame d'accueil et assainir. La trame d'accueil assainie, c'est-à-dire une trame qui serait viabilisée en amont.
C'est-à-dire construire des maisons, construire des routes,
des infrastructures sociales de base. Des équipements, ainsi de suite. Oui. Et construire également les logements pour la population. Ça sera intéressant parce que cette population en réalité n'a absolument rien. C'est une population qui est pauvre. Mmh. Alors il ne sera, si vous dites que non, vous préparez une trame d'accueil et assaini, vous laissez l'initiative de construction à la population, et surtout que nous sommes maintenant dans un cas d'urgence, eh bien cette population va encore faire n'importe quoi pendant la construction. Il faut construire des logements sociaux pour cette population. Et puis, il faut leur poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Quel type de logement que vous voulez? On ne doit pas imposer quelque chose à cette population, c'est parce que c'est cette population, le projet c'est pour la population. Elle a un mot à dire, elle a un mot, elle a des hypothèses à avancer. Donc, il faut consulter aussi cette population, procéder sous forme d'une urbanisation participative.
Dani Kwamba nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Dani.
Bonjour Monsieur Zodi, c'est plutôt en Mbujimayi.
Vous êtes plutôt en Mbujimayi. Voilà, quelle est votre préoccupation, oui. Dani?
Non, c'est le de la radio de la paix. Mais comme déjà mes prédécesseurs ont tout dit, alors que je voulais juste que l'État, notre État congolais, doit prendre ses responsabilités souvent dans les ministères de l'urbanisme. Je vous dis, mais je dis, il faut patienter au moins 2 heures à 3 heures du temps pour avoir des circulations. Parce que la route s'est bouchée, il y a de l'eau partout. Et puis le peu de caniveaux que nous avons ici en Bujima, ce sont renversants pour bien que tout le monde qui est là-bas. Mais là, s'il y a la pluie, tu vois que ça fait des dégâts, c'est terrible. Alors que les services d'urbanisme viennent commencer juste à prendre ses charges. C'est pour dire, si on voit quelqu'un qui veut construire dans un endroit, ça ne va pas à peu près. Il n'a qu'à lui dire clairement, non, monsieur, là-bas, ça n'existe pas. Mais c'est pas sur le terrain, vous le voyez, ils voient, quand ils arrivent, ils viennent, monsieur, ici, c'est pour mes gars, on lui présente juste l'argent, il laisse, non, c'est notre fait, il y a son argent, laisse-lui construire, bon, c'est pas notre problème. Nous, à la fin, là, ça crée des dégâts. Il y a des maisons, c'est-à-dire, on construit des maisons là, on ne sait pas comment orienter des. C'est de l'eau qu'on a fait, c'est dans les derniers. Je ne sais pas comment arriver avec la barrière laisse au-dessus, la route en bas, là-bas, c'est compliqué, monsieur Zébi.
Merci, Dani Kwamba. C'est compliqué même en Bujima, donc quand il pleut dans certains quartiers, vous ne pouvez pas passer, vous devez patienter au moins pendant 2 heures pour que, en attendant que les eaux puissent couler, et après vous pourrez, à ce moment-là, vous pourrez alors bouger. Jeff, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Yoli, bonne année.
Merci Jeff. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prévention des inondations?
Je suis très bien sûr que le sujet est pertinent. Je sais très bien qu'en gestion, on dit un chef doit répondre à une question avant qu'elle ne soit posée. Un problème des inondations. Aujourd'hui, ce genre de problème met même notre système de santé en problème. Met notre système de santé dans des difficultés aujourd'hui. C'est pourquoi, si vous allez sur Internet, on parle aujourd'hui du décès en matière de santé en RDC. Je dis, qu'est-ce que l'État met en pratique comme mesure de prévention en matière des inondations en RDC? C'est ça ma question.
Merci Jeff de Kananga. Max Bouessier nous a écrit depuis le Nord Kivu, il est à Butembo. Il dit le problème des inondations est quasiment partout. Moi-même, je vis l'inondation presque chaque mois, car ici à Butembo, il y a une rivière en plein centre-ville. Chaque fois quand il pleut, c'est tout le quartier qui est sous panique. Vraiment, c'est horrible, car c'est un quartier au cœur de la ville de Butembo, mais nombreuses personnes fouillent déjà leurs parcelles à cause des inondations. Ma question est de savoir, que je vais poser à l'invité, et celle de savoir, quand quelqu'un avait acheté sa parcelle au centre-ville, peut-être quand il voulait pas habiter les bidonvilles, alors quand des choses pareilles arrivent, même au centre-ville, on veut maintenant aller te donner une parcelle à 15 kilomètres de la ville. C'est là, on veut le faire en récognitif, donc obligatoire. On t'a dit 15 kilomètres ou rien. Par là, moi qui suis le propriétaire de ma parcelle, qu'est-ce que je vais faire? Merci Max de nous avoir écrit depuis Butembo. Crispin Kachama, le service de l'urbanisme ne fait absolument rien. Ils sont là seulement assis dans les bureaux, attendant les dossiers pour donner les autorisations de bâtir et les attestations de confirmation des parcelles. C'est transformant d'un service d'assiette à une régie financière. À aucun moment, vous ne le trouverez en mission de travail afin de prévenir les dangers ou remettre les gens à l'ordre. Allez au Sankourou, précisément à Lodja. Toutes les avenues sont devenues des sentiers et quand il pleut, il y a toujours des nouveaux ravins qui se créent et qui a déjà entouré tous les ravins qui ont déjà entouré tous les centres-villes. Et nous-mêmes aussi, la population, n'ayant plus de choix par manque d'un logis décent, faute de moyens, acceptons malgré tout d'aller se sacrifier. Non. Délocalisez-vous ou venez à Lodja. Ici, il y a des loyers en dollars. Tout est presque gratuit à Lodja, même les cimetières. À bon entendeur. Merci à Crispin de nous avoir écrit. Il y a plusieurs réactions. Bon, on n'a pas le temps de tout lire. Fiston Ilangi, vous avez la parole.
Voilà, je viens de suivre mes frères et sœurs. C'est une très très bonne chose. C'est pour dire que le sujet est vraiment intéressant.
Oui.
Merci beaucoup pour leur contribution. Mais ce qu'on peut faire comme recommandation, si vous voulez.
Oui.
Pour éviter tout ça, moi je pense que il faudrait d'abord qu'on puisse avoir nos autorités puissent exprimer une volonté politique. D'abord ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. S'il y a une volonté politique dans les secteurs de l'urbanisme, c'est parce que il y a une crise urbaine aujourd'hui dans nos villes. La crise, elle est là. Au-delà, les gens parlent de la crise politique, machin, ben, il y a une véritable crise
urbaine
que nous devons forcément réfléchir. On doit appeler les experts à la matière pour essayer un peu de réfléchir comment faire pour éviter cela, comment faire pour avancer quelques perspectives
d'avenir.
Mais
au point où nous en sommes avec toutes ces constructions anarchiques, est-ce qu'il y a, moyen de trouver d'autres solutions?
Ben oui,
pour prévenir des inondations.
Ben il y en a, mais tout ça doit commencer par une volonté. C'est parce que s'il y a une volonté politique, tout ça va se faire. Mais s'il n'y en a pas, ça sera compliqué. Et puis, au-delà, deuxième point, c'est par rapport au secteur de l'urbanisme. C'est un secteur technique qu'il faudra avoir des techniciens à la matière. Je venais de le dire que le ministère de l'urbanisme n'a pas pris des 30 urbanistes. En commençant d'abord par les secrétaires généraux, tous les directeurs, il n'y a aucun urbaniste.
Vous avez eu le temps de vérifier tout ça?
J'en ai vérifié. Il n'y a aucun urbaniste. Allez-y comprendre. Oh, le secrétariat général devrait être solide, devrait être dynamique. On devrait avoir des experts là-dessus pour qu'ils puissent nous monter une véritable politique en matière d'urbanisme. Ou bien incarner cela. Mais lorsqu'il n'y a pas d'urbaniste.
Mais qui sont là? S'il n'y a pas d'urbaniste, c'est à qui sont là?
Mais le secrétariat d'urbanisme écoutez, c'est lui qui est là. Il a fini à l'ISTA, le secrétaire général actuel. Tous les directeurs, il y a des pédagogues, il y a des architectes, il y a des géographes, ainsi de suite. Il n'y a aucun urbaniste dans des postes de commandement. Le cabinet du ministre, aucun urbaniste. Regardez, quelqu'un qui vient pour demander une autorisation de bâtir. L'instruction des dossiers se fait par quelqu'un qui n'a pas la maîtrise à la matière. Ici à Kinshasa ou bien partout d'ailleurs, on peut accordé une autorisation de bâtir même au téléphone. Vous appelez
ah
l'agent,
bon?
Tout ça, oui.
Au téléphone?
Dit, au téléphone, il vous dit, bon, toi, putain, nanganda, maman Moseka. Et puis, on vous donne l'autorisation. Mais non, l'instruction devrait se faire. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit ça doit se faire pendant 30 jours ou 60 jours. C'est pour vérifier, descendre sur le terrain, confronter les plans que vous nous amenez avec le règle. Mais ça s'est fait comme ça.
Au téléphone, amenez l'enveloppe et puis
ben oui, voilà.
On règle ça
rapidement. Nanganda, maman Moseka. Donc, on doit assainir les secteurs là. On doit assainir parce que le profil des animateurs pose problème. Et Dédé,
d'accord.
Il faut mettre en place une politique d'urbanisme. Quand je parle de la politique d'urbanisme, il faut avoir une politique en matière de logement, en matière d'assainissement, ainsi de suite. Tout ça doit être au niveau d'une... on doit avoir une politique qui doit être rationnelle.
D'accord.
Voilà. Et de trois, il faut contrôler. Les agents des services de l'urbanisme devraient être sur le terrain pour contrôler, constater les infractions, pour conseiller aussi des fois la population.
D'accord.
Et enfin, il faut sanctionner. Lorsqu'il y a violation en matière d'urbanisme, il faut frapper, il faut sanctionner. Sanctionner. Les sanctions, c'est très, très important.
Voilà.
Merci.
Merci. Il faut sanctionner. Merci, monsieur Fistan Ilangui. Je rappelle que vous êtes urbaniste. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Et membre de la Corporation des urbanistes congolais.
Voilà. Merci et à la prochaine.
Merci.